Je vous propose la lecture d'un passage de l'Évangile de Luc. C'est au chapitre 13 que nous allons voir ce passage. Lisons les 9 premiers versets. Est-ce que quelqu'un l'a sous les yeux et peut lire suffisamment fort ces 9 versets ? Le monde est un enfer. D'autant plus quand il se rapproche de nous et que les drames sont à notre porte. Quelle solution entrevoir pour essayer d'enrayer ces atrocités ? Alors Jésus, dans ce texte que nous venons de lire, face à des situations similaires que nous connaissons aujourd'hui, aborde la solution sous l'angle divin. Cette réponse, je la trouve étonnante et peut-être peut nous sembler passer à côté des problèmes, ou alors c'est l'être humain qui n'entrevoit que des solutions mal adaptées. Alors, tout de suite, il nous faut dire que nous n'allons pas considérer ce texte seulement par rapport à ce qui s'est passé avant-hier à Paris. La réponse de Jésus est plus générale par rapport aux épreuves, aux catastrophes qui peuvent se vivre. D'abord, les faits. Quelques pèlerins venus de la Galilée pour la Pâque à Jérusalem ont été massacrés par des troupes romaines alors qu'ils étaient en train de faire des sacrifices dans le temple. Je vois que c'est rigolo là-bas. Mais voilà, cet acte atroce avait été commandité par Pilate, qui était tristement célèbre pour sa cruauté. Et Jésus, après le récit de ce drame récent, rappelle l'accident mortel pour 18 personnes. La tour de Siloé, au sud-est de Jérusalem, assez proche du temple, s'était effondré, entraînant la mort de ces personnes. Un événement certainement plus ou moins prévisible, plus ou moins lié au hasard. En tout cas, ces deux drames sont la conséquence de la cruauté humaine ou de l'origine naturelle. Alors, le parallèle avec des situations actuelles peut être vite fait. La violence à Paris, de la part de terroristes, est insupportable. Ou encore la tension au Moyen-Orient est de plus en plus forte. Les persécutions dans beaucoup de pays parlent de cet enfer que connaissent des centaines de millions de chrétiens. Et en parlant des catastrophes d'origine naturelle, les crues de ces derniers temps sont dramatiques aussi. Nous pouvons également penser à des faits presque quotidiens pour des jeunes dont la vie s'est arrêtée contre un arbre en sortant de boîte de nuit, par exemple. Ou nous pouvons penser à la maladie qu'on ne réussit pas à maîtriser. Alors, quel regard porte Jésus sur ces drames? Je vois qu'on peut aborder la réponse de Jésus à travers plusieurs facettes. D'abord, à l'opposé de ceux qui racontent l'histoire des Juifs massacrés dans le temple, qui affirment que c'est Pilate le responsable, Jésus ne parle pas de cette vermine de gouverneur. C'est étonnant. Mais jamais dans le Nouveau Testament, il est question de l'élimination des Romains comme solution à la terreur qu'ils semaient. Aujourd'hui encore, le regard est dirigé vers les autorités qui sont, elles, responsables de tout ce qui ne va pas, que ce soit la gauche ou la droite. Déjà, les zélotes du temps de Jésus l'affirmaient vivement la venue du Messie en tant que chef militaire qui nous délivrera des Romains. Et Jésus arrive comme un serviteur. Dans la société, mais aussi dans les églises, on accepte cette conception, il faut éliminer ce qui cause la terreur. Il faut éliminer la violence par la violence. L'enfer, c'est les autres. Ce sont eux qui doivent être éliminés. Il faut un coupable, mais surtout pas moi. Au contraire, quand Jésus dit « Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également », il affirme qu'il faut se laisser interpeller. Nous participons de près ou de loin, par l'attitude des générations qui nous ont précédés, ou par notre silence et notre passivité, à ces violences, ces vengeances qui nous détruisent, même longtemps après. Martin Niekmöller, un pasteur allemand, disait « Ce qui m'inquiète, ce n'est pas le bruit des bottes, c'est le silence des pantoufles. » Ou encore Albert Einstein, qui philosophait un peu, « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. » Je dois prendre donc conscience de cela pour comprendre les réactions violentes, condamnables à l'évidence, mais qui sont le mécanisme de l'engrenage de la vengeance, même si elles alimentent la violence qui est en chaque être humain. Non, nous ne sommes pas que victimes. Reconnaître sa part de responsabilité devant Dieu ne résout certainement pas la violence, mais apporte un élément de justice par rapport à Dieu et permet de connaître alors son pardon, non son jugement. Et surtout, à travers cette phrase, Jésus s'intéresse non à Pilate, mais aux meurtris, aux perdants de la vie. Il parle des victimes, délibérément. Il pourrait disserter sur tous les responsables des malheurs de la société, sur les autorités sociales de Jérusalem qui auraient dû refaire le mur de soutènement de la tour de Siloé. Non pas qu'il faut laisser faire les sébraires et baisser les bras passivement, mais Jésus dirige les regards ailleurs. Ces drames sont autant d'interpellations pour réfléchir sur les questions essentielles de la vie, c'est-à-dire par rapport à Dieu et à la vie éternelle, avec lui ou sans lui. On peut discuter et même agir face au mal, mais si on ne résout pas la question pour soi-même, c'est une fuite. D'autant plus que la solution à ces événements dramatiques touche l'individu en priorité. La tactique du diable est de viser la foule pour tuer l'individu. Dieu veut transformer l'individu pour changer la société. Un autre élément à travers cette interpellation de Jésus Ce qui se dessine clairement dans la manière d'interpréter la mort de ces Juifs massacrés par Pilate, c'est de dire, s'ils sont morts, c'est qu'ils le méritaient bien. Ils sont responsables de leur malheur. Ils ont certainement gravement péché, et donc ils sont punis en conséquence. L'approche juive, en effet, interprétait la maladie ou l'épreuve comme une preuve des péchés graves commis. Mais Jésus montre que les vivants, qui sont bien installés dans leur propre justice, ne sont pas meilleurs que ceux qui sont morts accidentellement. Il faut se garder de se croire donc supérieur parce que l'on est vivant, ou en bonne santé, ou heureux en famille, ou dans l'aisance matérielle. Quelle attitude avons-nous vis-à-vis de ceux qui traversent des maladies ou d'autres épreuves ? Peut-être de se dire, ils l'ont cherché alors qu'ils se débrouillent ? Ils récoltent ce qu'ils ont semé ? Mais Jésus, en interpellant les vivants qu'il a devant lui, prononce des paroles prophétiques, directement par rapport au peuple juif. 40 ans plus tard, cela signifie en 70, il y aura la destruction de Jérusalem par les Romains. Et donc, si ceux à qui Jésus parle se croient supérieurs à ceux qui sont morts à cause de leur soi-disant faute grave, ils sont dans l'erreur et dans l'aveuglement. Ils connaîtront le jugement, donc la mort, s'ils ne se mettent pas en règle avec Dieu. Donc attention à une attitude de supériorité de notre part. L'orgueil nous prépare au jugement de Dieu. Une attitude d'humilité devant Dieu, la repentance, est comme toujours la solution qu'il nous demande de vivre en priorité. Cela ressort de l'enseignement de Jésus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. La priorité est dans le fait de se mettre en règle avec Dieu, et non de chercher à résoudre les problèmes, soit personnels, soit ce que les autres provoquent. Une autre perspective que Jésus, me semble-t-il, vise est qu'il s'adresse aux vivants. Il tire des enseignements pour ceux qui l'écoutent à partir des événements passés. Les gens recherchent la cause de ces drames, et vu la réponse de Jésus, ils pensaient que ces personnes qui étaient mortes avaient péché. Mais Jésus, au lieu de poser la question « Pourquoi ?»« Quelle est la cause ?» réoriente la pensée en disant « Pourquoi ? Dans quel but ?» Les uns regardent en arrière, Jésus regarde en avant. Il est constructif dans sa manière de considérer le passé, ce passé qui prépare l'avenir pour les vivants. Bien des situations laissent des blessures, des culpabilités, des remords, des amertumes. Jésus invite non à les cultiver en rappelant, par exemple, la responsabilité des autres ou sa propre responsabilité, mais en considérant le passé pour voir comment elles sont utiles pour rectifier la conduite, pour faire réfléchir sur les choses essentielles. Jésus rappelle que tous mourront un jour. L'important n'est pas tant de savoir si ce sera à 20 ans ou à 90, si ce sera dans un accident de voiture ou dans un lit, si ce sera de maladie ou à cause d'autres personnes. Mais lorsque cela arrivera, où irez-vous ? Voilà la question à ne pas éviter. Bien sûr, il est important de tout faire pour essayer de résoudre le problème de la violence, pour essayer de promouvoir la paix, pour combattre le fléau de la consommation d'alcool et de drogue, chez les jeunes en particulier, mais il faut surtout vivre l'essentiel. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Nous mourrons tous. Mais qu'en sera-t-il pour moi ? La répétition de cette affirmation, « Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous, vous aussi. Mets le doigt sur ma position vis-à-vis de Dieu et non sur la responsabilité des autres. » Alors peut-être que, avant de terminer, il est important de redéfinir ce qu'est la repentance. Quand le fils, dans la parabole que Jésus raconte, revient vers son père, il le fait en s'humiliant et en reconnaissant sa misère et en lui disant son désir de vivre avec lui, même comme le plus petit de ses serviteurs. Et là, il n'y a plus de jugement de la part du père. Il l'accueille les bras grands ouverts. Il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit, « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route. J'irai trouver mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. » Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau gras et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici, mon fils était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. La repentance est donc, premièrement, un changement de pensée vis-à-vis de Dieu. C'est le fait d'être convaincu de péché et reconnaître qu'on a offensé Dieu. Alors bien sûr, cela doit être une conviction profonde et non seulement du bout des lèvres. C'est confesser ses fautes à Dieu. Je te demande pardon profondément. Et c'est désirer vivre comme Dieu le veut. Et sa volonté n'est pas à imaginer, selon nos désirs, elle se trouve dans la Bible. Voilà, peut-être que vous pourriez faire remarquer que vient faire l'idée de la repentance dans les atrocités commises, les conflits religieux, les guerres, ou les maladies, les accidents de la route. Je crois que le rapport est direct. Jésus le fait en tout cas. Il y a un lien étroit entre la haine qui existe dans le cœur humain et la rupture avec Dieu. Il y a un lien étroit entre le vide que ressentent tellement de jeunes et d'adultes qui fuient dans l'alcool, la drogue ou le sexe, et l'absence de relation avec Dieu. Nombreux sont les exemples que nous pouvons citer où la rencontre avec le Seigneur a donné à la vie un sens qui a alors tout changé. Les relations, les buts, les orientations. Seul un vrai retour à Dieu peut provoquer cela. Alors bien sûr, cela aurait été formidable si Pilate s'était tourné vers Dieu. Il en a eu l'occasion lors de la condamnation de Jésus. Mais Jésus dit que l'essentiel, c'est chacun à qui il parle, aujourd'hui et ici. En conclusion de sa réponse, Jésus parle d'un figuier sans fruit. Le propriétaire veut le couper. Mais le vigneron intercède pour son arbre, attend encore une année. À travers cela, Jésus met l'accent sur la grâce qu'il accorde. Pour les Juifs à qui il s'adresse, cette période où il pourrait se repentir sera de 40 ans. Après cela, a eu lieu la destruction de Jérusalem, parce qu'ils ne se sont pas repentis. Et l'apôtre Pierre de dire, à nous aussi aujourd'hui encore, le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de ses promesses comme certains se l'imaginent. il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à la repentance. Nous vous en supplions, au nom de Christ, dit l'apôtre Paul, soyez réconciliés avec Dieu. Je vous